Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici l'interview sur RDIWA et avec au studio Mathieu Dardet. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu, tu es le directeur du théâtre Les Airs, théâtre de Die et du DIWA. Et tu es ici pour nous parler de cette nouvelle saison qui débute à partir de samedi avec des propositions artistiques de spectacles vivants. Il y a aussi cet éditorial qu'on peut lire sur la présentation de ce programme avec ces trois points de suspension issus du Kid de Charlie Chaplin. Est-ce que c'est une période qui laisse sans voix ?
C'est une période qui laisse la place à l'imaginaire. C'est une période qui permet aussi de prendre la parole de manière décalée et détachée. C'est aussi une prise de parole que je qualifierais d'artistique, où en fait chacun peut lire à sa façon.
Et alors, on imagine aussi sur ce fil Charlie Chaplin avec ce singe sur les épaules, et donc en grande difficulté, c'est un peu aussi cet aspect de cette programmation du théâtre, d'affronter un peu les difficultés que l'on pressent un peu.
On est dans une période d'incertitude politique, budgétaire, démocratique, mais du coup ça influe aussi sur nos réalités de travail au niveau artistique culturel. Le théâtre Les Airs est pris dans une réalité locale, départementale, régionale, nationale et internationale qui nous dépasse la plupart du temps, et on est pris dans ces faisceaux-là et on essaye d'avancer, on continue à faire des choses dans nos fragilités, dans notre façon de travailler avec les uns avec les autres. Parfois avec des convictions, mais souvent avec peu d'assurance sur la façon et les moyens qu'on aura pour le mettre en œuvre. Donc c'est un endroit qui est, qui dit bien aussi notre capacité à produire du rêve, de la fantaisie, de l'émotion sur une mer qu'on qualifiera d'agitée et d'incertaine.
Alors, il y a eu ces échappées des rues aussi, qui viennent de se terminer. Un beau bilan, avec peut-être un petit peu moins de fréquentation due à la météo.
Oui, deux petits regrets. Alors d'abord, ce n'était pas la météo, mais les concerts des jeudis et des vendredis soirs ont un peu moins suscité l'intérêt que d'autres moments. Il y avait énormément de monde pour le concert de Louisa Batax et Elle Danse le samedi soir. Et les spectacles, oui, du dimanche après-midi ont été rapatriés dans la salle polyvalente, ont généré un intérêt public qui est resté quand même très important, parce qu'on a eu entre 250 et 350 personnes au final pour chacun des rendez-vous. Mais il est certain que si on avait eu un beau temps aussi clair et affirmé que le vendredi, que le jeudi, que le mercredi ou que le samedi, sans doute on aurait eu encore plus de monde. Et dire que dans le moment où on est, ces genres de fréquentation sont aussi des moments donnés où on invite les gens à aller sur la participation libre. Donc ça nous met aussi un peu de fragilité économique en plus d'un intérêt public qui a été à cet endroit-là. Moi, je dirais juste qu'on n'est pas si loin de la fréquentation de l'an dernier. Mais s'il avait fait bon, on pourrait imaginer qu'elle aurait été supérieure encore. Et moi, par exemple, je reste très marqué par... l'intérêt très fort du public et les émotions créées avec le spectacle des enfants sérieux Happy Apocalypse to You à la suite de la vélo parade le samedi soir, où il y avait 900-950 personnes, ce qui a été vraiment très bien. Il y a eu aussi beaucoup de monde pour le magnifique Bon Rien le mercredi, place de la République, ou pour la compagnie Si Seulement qui jouait, elle, le dimanche matin. Voilà, il y a eu des moments qui ont été très rassembleurs, des spectacles qui ont interrogé. Moi, j'ai noté que les petites conférences de poche de la compagnie No Kill sont devenues ce que j'espérais, à savoir un feuilleton que les gens ont envie de suivre. Souvent, les gens venaient une première fois par curiosité et se faisaient happer, intéressés, intrigués par l'univers de l'artiste. et se retrouver à venir les demains et les surlendemains, de suivre l'ensemble en fait, des propositions, d'en vouloir en faire le tour. Donc on s'est dit qu'il s'est passé des choses. Moi, sur les conférences de poche, je note que le dimanche, alors qu'on était dans l'hall de la mairie avec la pluie, il y avait 120 personnes. Et que les gens ont attendu dès 2 heures avant la conférence de poche, en extérieur, avec leur imperméable et leur parapluie, dans l'attente que le spectacle soit prêt et qu'ils peuvent rapprocher de la proposition. Donc oui, il y avait des fans et des intéressés. Donc ouais, il y a quand même des moments qui sont très heureux. Je note aussi comment s'est extrêmement bien déroulé le projet Portrait Maton, le projet participatif, mais aussi Né au Vent, qui était un moment qui a été super avec les mots à vélo. C'est une écriture qui ont été réalisées par Charlotte de la Bouillonnante en lien avec ce spectacle accueilli en juin dernier, mais aussi avec des moments de lecture publique qui ont été très forts et très puissants le samedi, le dimanche, et là portés par Trajet Spectacle. Donc il reste quand même beaucoup de choses positives, généreuses et qui ont rempli leur objectif. La soirée avec le dimanche avec le blind test et le concert à l'ukulélé était aussi très joyeux, malgré la pluie qui s'est invitée pour ce moment-là.
Voilà pour l'échappée des rues. La nouvelle saison donc débute ce samedi 4 octobre avec La nature des équilibres. C'est proposé par Sylvain Gouraud. Ça sera de la performance photographique.
Oui.
Alors, comment peut-on définir cet aspect de spectacle ?
Alors, en fait, c'est Sylvain Gouraud est un photographe qui habite à Cré et qui travaille depuis de nombreuses années sur des enjeux qui relèvent de l'agriculture, du paysage, etc. Et pourquoi il annonce ça comme une performance photographique, c'est que La nature des équilibres, en fait, est une projection de photographie que lui-même a produit, plutôt dans le nord de la France, plutôt sur des territoires qui relèvent de la culture de la betterave. Et en fait, il va les commenter et accompagner ce moment-là par la lecture et les mots et l'émotion et le sens que lui tire des photos qu'il en a fait, du sens de l'agriculture et de la politique que ça induit par rapport à ça. Et c'est à un moment donné qui va être aussi très fort en termes d'image, mais aussi très joyeux et très participatif, parce que les plus curieux qui ont vu les affiches et la communication l'ont repéré. Les popotes seront présentes et proposeront en amont, pendant l'après-midi, un temps de cuisine collective et à la suite du spectacle, un repas, un menu qui sera proposé à prix libre à la suite de la représentation.
Il y aura la présence de la librairie Mosaïque, car j'imagine que Sylvain Gouraud a sorti un ouvrage sur ses photographies.
Il en a même sorti plusieurs. Et du coup, chaque fois qu'il y a un auteur qui est présent, qu'une autrice se déplace, autant qu'on le puisse, on invite la librairie Mosaïque à en vendre les œuvres à leur bénéfice au théâtre. Donc oui, la librairie Mosaïque sera présente sur ce rendez-vous-là.
Vendredi 10 et samedi 11 octobre, il y aura deux dates, donc avec Belfour qui propose de la poésie teintée de rock'n'roll. Ce choix répond à quel besoin ?
Alors pour moi, il répond à deux enjeux. Dans le projet que j'ai écrit pour le théâtre, pour lequel j'ai postulé et j'ai été nommé il y a maintenant plus d'un an, j'avais mis mon intérêt pour la musique et mon intérêt pour la place des villages dans le projet et, du théâtre. Et Belfour est un duo de Clermont-Ferrand que j'avais déjà accueilli dans mon poste précédent où il a fait une tournée dans les villages de Savoie. Et donc j'ai eu envie de retrouver leur générosité, leur fantaisie, leur plaisir de rencontrer le public et les partenaires. Et donc ils viendront jouer à 3 reprises chez nous, à Die et alentour, à Romeyé le vendredi soir au Temple, le samedi au Tintamar à Lucandiwa. Et ce n'est pas visible et ce n'est pas dans la plaquette, mais je le dis parce que ça fait partie du sens aussi de ce qu'on produit. La venue d'artistes est aussi l'occasion de se rapprocher de gens qui ne peuvent pas, eux, être mobiles. Et donc, on proposera un concert le jeudi après-midi à l'EHPAD Le Fil à Soie. Et il y aura aussi une rencontre avec les élèves de l'école municipale de musique et d'art plastique de Die le jeudi soir. Donc dire qu'il y a une logique d'action culturelle, de travail en direction des publics, de se rapprocher des uns et des autres dans ce contexte-là.
Voilà, Belfour, composé donc de Lucie Mena et Michael Sacchetti, qui sont au chant et guitare.
Oui, et avec, c'est vraiment une grande finesse d'écriture. C'est plutôt folk rock comme un univers, avec un travail un peu électro, avec vraiment une très grande qualité de voix et évidemment de la guitare.
Jeudi 16 octobre, ça sera autour de théâtre de marionnettes et de musique live avec chambre, contes à tiroir pour rêverie marionnettique. C'est proposé par la compagnie du Bruit dans la tête. Un spectacle pour tous les âges, à partir de 8 ans.
Alors, c'est une compagnie de marionnettes qui est basée dans la Drôme. C'est un spectacle que moi j'ai vu, qui a joué en maison de retraite à Valence dans le cadre d'un projet extrêmement large qui était porté par le Train Théâtre et la Folle 26. Avec les personnes âgées. Et pourquoi on l'accueille à 10 ? D'abord parce que le spectacle est une grande réussite et une grande finesse dans la construction des objets et dans la manipulation. Et il s'inscrit aussi d'un mouvement qui est porté par la communauté de communes au titre du contrat local de santé. Et donc il y a une semaine sur la santé mentale qui a lieu à 10 à partir du mercredi et au fil de la semaine. Et du coup, c'était l'idée aussi de mettre en termes d'objets artistiques et de discussion la maladie, le soin, en sachant que César, qui est le directeur artistique de la compagnie, lui a été infirmier dans des métiers précédents. Et du coup, le spectacle sera suivi d'un bord plateau qui permettra d'échanger sur les réalités de travail, les échanges et la façon dont a été imaginé le spectacle, et dans la dimension que je qualifierais de documentaire, dans le sens où de quelle manière il s'est inspiré de sa propre histoire pour se saisir de ce spectacle-là.
Ce spectacle correspond aussi aux envies, aux nécessités du territoire, avec par exemple ce centre de santé mentale ou local. Est-ce qu'il y a aussi ce partenariat de prise de conscience de ces difficultés par le biais du spectacle vivant ?
Bon, en tout cas, c'est l'idée de se dire que aucune facette de la vie et de la société n'est exclue de la réalité, de la culture et du spectacle vivant. Chacun peut s'en saisir à sa manière. Après, il faut trouver une forme et un spectacle qui soit adapté à l'endroit où il se joue ou comment où il se joue pour y trouver de la place. Et en tout cas, nous, dans l'idée que je me fais de la place du théâtre, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est là pour échanger, coopérer, construire et lier la programmation avec les uns et avec les autres pour faire en sorte de créer des connivences et des passerelles entre des réalités porté par les uns et par les autres à l'échelle du dit et du diwa, et que ce soit l'occasion pour le théâtre d'alimenter et parfois même d'initier des propositions autour d'un jeu qui sont finalement communs et qui participent aussi de la vie et du collectif.
Comment s'organise cette programmation par rapport justement à ces besoins ou ces envies face à toutes ces compagnies, ces comédiens, ces artistes? Il y a un choix à opérer avec des pincements parfois.
Alors dire qu'on dit, quel que soit le théâtre, on dit plus souvent non que oui aux compagnies. Tant le nombre de compagnies exceptionnelles a dit dans le DIY et au-delà en France, par rapport aux places, aux moyens et aux capacités d'accueillir pour chaque lieu, chaque festival, etc. Et moi, ce que je dirais, c'est il y a un enjeu de fond, c'est d'arriver à avoir le maximum de propositions pour avoir la vision et l'idée la plus juste du contenu proposé par les uns et par les autres pour le décider. Et ensuite, pour moi, il y a deux enjeux qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est qu'on a un théâtre qui a aussi vraiment une réalité économique qui est difficile. Et donc, du coup, on est beaucoup dans la logique d'appel à projet pour trouver des moyens pour programmer, faire des choses en milieu scolaire, pour accompagner les créations des compagnies. Donc, il y a aussi des endroits où comment on répond dans les appels à projet avec des choses qui peuvent s'inscrire en termes, au niveau artistique là-dedans, qui permettent du coup d'alimenter économiquement la programmation. Et la deuxième chose, c'est se dire que on a un enjeu d'ensemble. Le théâtre Les Airs est un théâtre qui doit aussi assumer des enjeux de diversité esthétique. On ne va pas faire que du théâtre ou que de la musique ou que de la danse. Un enjeu aussi d'inviter des artistes d'ici, mais aussi d'ailleurs. De se dire qu'il y a un enjeu aussi de diversité. Il ne faut pas qu'on ait que des gens, pour résumer, blancs au plateau dans la programmation. Qu'il y a un enjeu évidemment de parité, de dire qu'il faut qu'il y ait autant de créateurs et de créatrices qui soient portés là-dedans. Et du coup, ça fait un faisceau de raisons qui s'inscrit dans des équilibres d'ensemble et dans des réalités de travail avec les uns ou avec les autres. Donc c'est une histoire qui est assez complexe. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, vous voyez, le jeu du Mikado. Du coup, il y a toute une série de choses qui s'associent, qui s'assemblent et qu'il faut arriver à faire tenir communément. Et on se rend compte que des fois, quand on déplace une chose, on en fait bouger beaucoup d'autres.
Justement, il y a aussi cette possibilité pour le théâtre de proposer des résidences à des compagnies, des artistes, avec cette sortie de résidence de Olivier de Sépibus qui aura lieu jeudi, le 2 octobre, à 18h30. En quoi consistera cette proposition ?
Alors d'abord dire que le théâtre est un outil de travail qu'on partage le plus possible avec les équipes artistiques. Que les sorties de résidence sont proposées aux uns et aux autres, mais que chacun s'en saisit ou pas selon son bon vouloir. Et que, j'en vais vous dire, on est parfois aussi surpris que le public parce que l'artiste tient à nous dévoiler ce soir-là. Moi, je peux vous dire qu'Olivier Sépibus a écrit un livre. Je peux vous dire qu'il veut le mettre en scène sous forme de lecture. Je peux vous dire qu'il s'est associé avec un batteur. Mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il va nous présenter jeudi soir à ce moment-là, dans quelle façon il aura avancé sur la production du spectacle. Je sais qu'il y a aussi un travail sur la vidéo sur ce spectacle-là. Et donc, du coup, on est sur un endroit de curiosité partagée entre l'équipe du théâtre et le public parce qu'on ne sait pas exactement. C'est aussi ça le jeu de la création, c'est aussi ça le jeu d'accompagner les artistes dans leur parcours pour imaginer et aller au bout d'un spectacle. Donc ça va être un moment donné où nous, on essaie de rassembler tous les ingrédients pour que les artistes puissent travailler au mieux et on découvre ensemble l'état du travail et souvent une partie du travail et pas toute sa totalité avec le public les soirs de cette résidence. Pour le coup, il y en a 4 qui ont lieu sur la même 5 sur la programmation, mais chaque artiste va le faire à sa façon. Et là a été évoqué le vide Sépibus. Je serais bien incapable de vous dire ce que va proposer Cadavre Écrit en octobre ou le collectif musical La Cadencée en décembre ou encore Grand Rivage en janvier. Chacun va avancer à son rythme, à sa façon, parfois sur un temps court, parfois sur un temps long. Mais l'idée, c'est en tout cas pour chaque artiste de dire qu'il avait besoin de se confronter au public, au regard, aux échanges pour voir si les endroits de recherche et les pistes explorées leur semble importante, légitime, réussie, compréhensible. Et du coup, la question, c'est vraiment la qualité du public dans la façon dont il réagit à la proposition pour confirmer ou infirmer les axes de travail et les directions prises par les artistes.
Il y aura aussi Requiem pour un smartphone par Bulle de Zinc. Ça sera le 7 novembre à partir de 19h. Il y a donc ce constat par 3 courtes pièces des questionnements sur cette conséquence qu'amène la surnumérisation de nos sociétés. Alors, est-ce que c'est un cri aussi par rapport à cette société qu'on nous prépare ou dans laquelle nous entrons?
D'abord dire que oui, c'est un spectacle qui alerte sur la question des terres rares et de la façon dont elles sont exploitées, particulièrement en Afrique, pour produire nos téléphones portables que chacun ou presque a dans sa poche et se sert de manière pensée ou impensée au quotidien. Et d'abord dire que c'est un spectacle que, pour le coup, je n'ai pas vu, mais que Vulaine, qui s'occupe de l'administration du théâtre, mais qui est actuellement en congé, a vu et m'a dit que c'était vraiment une grande proposition artistique. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant et très fort. Alors, c'est sûr que c'est chargé au niveau politique, au niveau du sens. Et après, moi, ce qui m'a aussi intéressé et mobilisé sur le fait d'accueillir ce spectacle-là, c'est de se dire que c'est aussi une proposition qui sont portées par d'autres, à savoir le Festival des Solidarités Adi. Et ils sont plusieurs associations pour se lier ensemble et pour présenter ça, mais dire que voilà, c'est dans la programmation, il y a aussi des endroits où le théâtre est en échange avec des structures associatives du territoire ou autres, ça peut être des collectivités, on l'a vu avec Chambre, mais le dire que c'est un endroit où il y a une porosité qui se crée et il y a des partenariats qui se créent autour de la programmation si on est d'accord et si on arrive sur des validations au niveau artistique. Et donc, moi, je pense que ça va être une proposition qui va être très forte et très marquante sur le contenu qu'il porte.
D'ailleurs, il y a ce propos hein, sur ce qui se passe à la République démocratique du Congo.
Avec
l'extractivisme au Kivu. Voilà,
c'est le point de départ du spectacle. Voilà.
L'origine du monde, 46 par 55 cm, proposé par Nicolas Heredia. Et la compagnie La Vaste Entreprise. Donc, cela s'inspire du tableau de Gustave Courbet, hein, L'origine du monde. Et pourquoi cette prise de position? Je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais il y a cette. C'est une aventure potentielle. Comment peut-on parler d'aventure potentielle? C'est l'interrogation de ce que peut produire ce tableau à sa vision.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas aller au bout de la réponse sans dévoiler un petit peu ce qui fait le sens et le sel du spectacle. Après, moi, ce que je peux vous dire sur L'Origine du Monde, c'est un spectacle que j'ai vu plusieurs fois, qu'il a tourné partout en France, qu'il est, pour moi, d'une grande fantaisie et plein d'humour, et vraiment saisi d'une belle pensée. Le point de départ est tout simple. Nicolas Heredia est un artiste qui habite à Montpellier. Un dimanche matin, il se rend sur une brocante, voit une copie de L'Origine du Monde de Gustave Courbet et il est saisi de l'envie irrépressible de l'acheter. Et là est le nœud et le début de l'histoire et des péripéties qui vont voir le jour et qui vont interroger le sens ensemble de le pourquoi d'avoir une œuvre. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle économie ça suppose? Comment on la partage ou pas? Et quand c'est une aventure potentielle, c'est dire que le public est invité aussi à se positionner sur le rapport à l'œuvre et la façon dont le spectacle met en scène cette pièce-là et comment Nicolas Heredia souhaite la faire vivre avec le public. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un spectacle qui est extrêmement drôle et d'un humour que je qualifierais de potache et joyeux.
Cette copie sera visible pendant ce spectacle?
Oui. Et vous pourrez même... c'est un peu l'objet de la proposition. C'est la curiosité de la possession qui est interrogée.
Mercredi 26 novembre à 16h, ce sera de nouveau un théâtre d'objets et de marionnettes. Ça sera hors les murs et donc ça se passera à la salle des fêtes de Solor-en-Diwa. Ça dure 30 minutes et ça s'adresse à partir de 4 ans. Et c'est proposé, donc vous veniez à peine de partir, par la compagnie Les Voisins du Dessus. Un spectacle donc pour tous les âges malgré tout, et qui parle de quoi précisément?
Alors, Les Voisins du Dessous, c'est une compagnie de théâtre d'objets qui est basée dans l'Hérault et qui, là, avec cette pièce-là, joue avec ce qu'est le théâtre, les codes, les objets, les outils, le vocabulaire. Et donc, c'est vraiment une façon de découvrir l'envers du décor du théâtre. Et c'est vraiment pensé pour quelque chose qui est proposé pour les enfants. Donc, en fait, ça joue le mercredi après-midi à Solor-en-Diwa. Mais en fait, le mardi, le jeudi et le vendredi, ils seront en tournée dans 3 villages territoire avec un temps de médiation et une représentation qui sera dédiée aux enfants des écoles occupées par cette proposition-là, qui seront partenaires de cette tournée-là. Et donc, c'est un endroit où on peut venir en famille, c'est un endroit ingénieux. Et puis, on trouvait l'idée assez cocasse que de dire le théâtre de dit et les airs est à dit et que... quitte à amener le théâtre, autant amener ses outils, son appareillage, son univers, son vocabulaire dans des villages où il n'existe pas. Et donc, c'est cette proposition-là qu'on avait envie de faire avec ce spectacle-là.
Samedi 6 décembre, ça sera des concerts avec Tarantella et Chuchicha, deux formations, donc l'une avec cette musique napolitaine et puis l'autre qui proposera donc un duo, Lolita Ponce et David Santis. Qu'est-ce qui différencie ces deux formations qui sont faites quand même pour danser?
C'est le point commun de la soirée, c'est vraiment de se dire qu'au creux de l'hiver, on peut se retrouver pour danser pour un moment joyeux, festif, musical, au Théâtre Les Airs, comme on l'a fait pendant l'Échappée des Rues, par exemple. Tarantella, c'est un groupe de la Drôme. Alors, il y a une petite nouveauté. Avant, ils étaient 3, maintenant, ils sont 4. Et ils viendront travailler cette semaine-là leur univers, en sachant que eux, évidemment, tout est dans le titre. La Tarantelle, c'est des airs traditionnels du sud de l'Italie. Mais pour autant, eux, ils sont dans la création d'un nouveau répertoire, de réinventer des chansons d'aujourd'hui qui se saisissent de cette façon d'écrire, de jouer, de danser. Et c'est cette revisite qui est le point commun avec Tchitchoucha, parce que Tchitchoucha, c'est un duo, lui, marseillais, mais qui part de la cumbia et qui en revisite de manière électronique pour en faire un endroit qui sont vraiment hyper, un peu plus percussifs, très dansant, très invitant au mouvement. C'est une soirée qui va vraiment déborder d'énergie, où on invite au public vraiment de profiter et de danser et de se retrouver ensemble pour un moment de partage.
Il y aura ce 9 décembre, mardi à 19h, du Hola, compagnie Les Rustines de l'Ange, qui proposera donc un théâtre gestuel et de musique. Cette proposition amène le spectateur sur un univers. Lequel, peut-on dire quelques mots ?
Alors, Les Rustines de l'Ange, c'est une compagnie de la Drôme qui fait aussi du théâtre de rue, qui a aussi un rapport fort à la musique. Ils ont joué, par exemple, Corazon l'an dernier à l'Échappée des rues. Duola, c'est une pièce qui a été travaillée au théâtre au mois de juin, avec d'autres lieux encore. Et donc là, ils viendront jouer le spectacle qui peut jouer à la fois en salle et en rue. Et moi, ce que j'ai envie de dire sur Duola, c'est... pour moi, on est sur du burlesque sans parole, on est sur du mime, on est sur... du quiproquo, de l'attention, de la proximité, de l'émotion. Pour le coup, on ne sera pas sur le gradin traditionnel du théâtre, mais sur le gradin en bois, pour vraiment être tout contre le duo d'artistes et découvrir leurs relations, leurs échanges, la construction commune de cette pièce et de la façon dont, de manière touchante, fantaisiste et drôle, elles arrivent à cohabiter et créer ce duo.
Et donc, ça sera avec Anne-Laure Gros et Séverine Bruno.
Oui, c'est le duo qui co-dirige la compagnie Les Rustines de l'Ange, qui se met en scène, alors pour moi, peut-être que je ne les connais pas assez, mais peut-être pour une des premières fois où elles sont seules sur le plateau, parce que moi, je les connais pour d'autres propositions, comme Ça va valser ou Corazon que j'ai évoqué, où là, pour le coup, il y avait un nombre très conséquent d'artistes musiciens et musiciennes, et particulièrement des accordéonistes qui portaient ces pièces-là. Et donc là, c'est une proposition qui est vraiment différente.
Un autre duo qui sera présent à partir du 17 décembre à 10h30, ça sera dans la catégorie danse jeune public et ça s'intitule Sous le manteau, proposé par la compagnie Sur le tas. Un duo d'artistes chorégraphes et danseuses, donc Manon Roger et Théma Lindo.
Alors la compagnie Sur le tas, c'est une compagnie de la région qui est basée en Isère et qui est très repérée au niveau du jeune public. Sous le manteau a fait l'objet d'un soutien du réseau régional Domino, qui réunit compagnie et lieu. C'est juste pour dire que vraiment, ils ont joué partout ce spectacle-là. Et donc, Sous le manteau, c'est une fantaisie. C'est un travail qui renvoie de l'objet, de la pièce. On est un travail évidemment sur le corps, mais aussi un travail sur le vêtement, sur la relation et le partage de ces endroits-là, sur comment, tout d'un coup, on crée une multitude de relations, d'échanges, de rapports au corps, de mouvements, cette façon dont le manteau se partage, se sépare, les lie, voire les sépare et les met en tension. C'est une proposition qui est très fine et extrêmement bien joué par le duo des deux artistes. Et je dirais aussi que ça fait pour la compagnie point de départ avec un projet de médiation d'action culturelle avec l'école de Chabestan à Die.
Reprise du 2026 avec l'Indifférence proposée par Jeff Everhart et Marika Marinoni. Donc c'est du cirque, ça sera à partir de 19h. Le cirque, c'est aussi un art qui a sa place dans le théâtre et aussi peut-être un prétexte à innover ou inventer.
Alors, Indifférence, c'est d'abord une artiste que je connais, enfin alors, c'est un duo. Donc c'est évoqué, Jeff Everhart et Marika Maronini. Et Marika Maronini, moi je l'ai vue dans deux de ses créations et aussi comme interprète. C'est quelqu'un que j'ai découvert par hasard, il y a quelques années à Sedan, où elle venait présenter le solo qu'il avait porté à la fin de sa formation au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne. Et c'est un travail qui, étonnamment, venait du cirque, mais était programmé dans un festival de danse dans les Ardennes. Et la directrice artistique qui portait ce projet-là, ce festival-là, m'a dit, elle a un travail au corps qui peut être lu de plein de façons différentes. Et c'est une artiste incroyable qui va avoir une grande carrière. Et là, 6 ans après, on la retrouve ici et elle a développé un travail avec la roussière qui est cet objet rond, ce cercle métallique qu'elle arrive à amadouer, à inventer, à partager avec cet interprète-là pour faire une proposition qui est nouvelle. C'est une création. Le spectacle va être créé au cours de l'hiver, mais qui va être d'une grande force tant la maîtrise technique de ce duo-là, de cet outil-là, de cet agré-là est absolument incroyable.
Et puis, pour finir ce première partie d'année culturelle du théâtre, il y aura La Nature, ça n'existe pas. C'est proposé par Braquage Sonore et compagnie, et ça sera le jeudi 29 janvier à 19h. C'est un spectacle sonore et visuel, un solo même.
Oui, donc là aussi on est sur une création, et Braquage Sonore, c'est Jérôme Hoffmann, qui est un compositeur et créateur sonore, qui est vraiment beaucoup en interaction, en inspiration de la nature et de l'environnement. Il a construit et imaginé beaucoup de projets en lien avec le parc naturel de l'Aubrac ou des Monts d'Ardèche, ou alors il a aussi travaillé dans les Cévennes la question de l'eau. Et là, il a voulu travailler et inventer une pièce qui rappelle et imagine la question de la nature. Alors, n'y voyez pas un spectacle traditionnel avec un endroit d'écriture qui renvoie avec des mots, etc. On est sur quelqu'un qui crée des situations, qui crée du son, qui crée de la musique et qui réinvente et qui reparcourt la question de la façon dont la nature existe et s'imagine et dans les règles physiques qu'il alimente et qui la singularise. Donc, c'est vraiment un endroit qui est extrêmement original. Pour moi, il y a un endroit de poésie musicale, de fantaisie, de surréalisme dans la façon dont Jérôme évoque et traite cette pièce-là, qui va durer une quarantaine de minutes et qui est vraiment un endroit très singulier et extrêmement captivant.
Et puis, il y aura pour cette année aussi Zoom, c'est du compagnonnage artistique. C'est une mission aussi du théâtre à l'adresse des équipes artistiques tout au long de l'année. Et qu'est-ce que cela permettra, par exemple, pour la compagnie Les Cellules Imaginales ou la compagnie Le Champ des Pistes ?
Alors, chaque compagnie, compagnonnage artistique est original et singulier. Il s'inscrit sur des durées, sur des formats qui sont chaque fois propres et font l'objet d'échanges entre la compagnie et le théâtre pour voir ce qui semble le plus judicieux et le plus nécessaire pour l'un et pour l'autre. Les Cellules Imaginales, en fait, c'est une compagnie qui est portée par Julie Sibacker, qui est basée à Lyon. Elle a un projet qui s'appelle « Tes mains sur moi » et qui parle de la domination, de l'emprise d'un homme sur une femme. Et elle est au tout début du projet. C'est-à-dire qu'elle va travailler chez nous, là, pendant les vacances de Toussaint. Mais le spectacle sera créé au printemps 2027, donc dans 1 an et demi. Donc l'enjeu, là, c'est de travailler avec quelqu'un qui est déjà venu à Die, à savoir Marie Magdelaine, qui a joué le spectacle Tant bien que mal avec la compagnie en janvier dernier. Et elles vont travailler à l'écriture du spectacle. Et pour alimenter l'écriture du spectacle, elles vont rencontrer des structures mobilisées sur ces enjeux-là, sur Die et sur le Diwa, pour créer des temps d'échange et de dialogue, pour partager la matière, réfléchir à ce qui se dit. Et je basculerai sur le champ des pistes. La relation est différente. Là, c'est une relation qui s'inscrit avec comme fil rouge le projet qui s'appelle Feu la forêt, qui sera créé au printemps 26 et qu'on coproduit en tant que théâtre. Et il se trouve que le champ des pistes, en plus de créer ce spectacle-là sur l'année 25 et 26, a développé avec un accord et via un appel à projet du parc national régional du Vercors, un projet qui s'appelle Terre d'en haut, où en fait c'est l'occasion de fêter l'anniversaire de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Et à ce titre-là, il y aura toute une série de rendez-vous participatifs dans plusieurs parties du parc. Et nous sommes partenaires de la proposition qui aura lieu au Monastère de Sainte-Croix le 15 novembre sur un temps de réflexion et d'échange sur la question du transformation qui relève du spectacle vivant, mais aussi de voir de quelle manière la compagnie fait vivre et raconte en fait l'histoire du lieu, l'histoire de cette protection et de cet espace naturel qui est traité de manière administrative par le PNR, qui lui permet aussi d'être un endroit aussi de préservation et d'entretien de la biodiversité, et un endroit du coup d'émerveillement et de découverte à la fois des réalités animales, mais également végétales et minérales de ce territoire qu'on partage, à savoir le Vercors, et dans toute sa diversité.
Et puis, il y aura aussi le projet ouvert sur le Diwa. Cela permet aussi une ouverture sur des territoires un peu éloignés de Di. Cet accès à la culture avec la compagnie Les Voisins du Dessus qui reviennent donc proposer des séances d'ateliers dans trois écoles du Diwa. Il y aura aussi la formation Escargot Migrateur, ça sera plutôt en février. Et puis, les paysages du Diwa sur un plateau. Donc, plusieurs propositions qui impliquent des artistes, mais aussi les populations.
C'est ça, et puis l'idée de se dire que le théâtre Les Airs a un outil, son vaisseau amiral qui est du coup le mur qui sont à Di, mais qu'on imagine aussi des parcours, des aventures. On va se déplacer chez les uns et chez les autres, dans certains villages et puis dans d'autres, travailler avec des associations et puis avec des écoles, mais se dire que notre périmètre d'action, c'est vraiment le Diwa, et que au-delà de la question de du Diwa, on est aussi connecté à la vie artistique et culturelle au sens large. C'est pour ça que proposer un temps de formation avec l'escargot migrateur qui est repéré au niveau national nous semble extrêmement intéressant pour mettre en valeur la vitalité et affirmer aussi que les nouvelles pratiques professionnelles peuvent s'inscrire et s'imaginer et se partager aussi au Théâtre Les Airs.
Et donc, au printemps 2025, a été lancé ce bilan carbone et stratégie climat par la formation WeCount. Cela continue. Donc, comment se décline cette proposition vis-à-vis des spectateurs ?
Alors, quand je suis arrivé au théâtre, moi, j'ai dit aussi que les questions de l'écologie culturelle faisaient partie des lignes rouges et des choses essentielles du projet et de la façon dont on va travailler ensemble à l'échelle du théâtre et de la façon dont on va imaginer l'ensemble des projets. Faire un bilan carbone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mesure sur une année tout ce qui produit du carbone pour en fixer un état. C'est-à-dire que, alors, il y a des choses évidentes. Je vais me déplacer à Valence pour une réunion, c'est un bilan carbone. Le public se déplace au théâtre, c'est un bilan carbone. Le site internet, c'est un bilan carbone. Le matériel dont on se sert pour travailler, c'est du bilan carbone. En fait, tout se traite en termes de bilan carbone. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de l'évaluer dans sa précision pour dire comment on fait pour réduire notre empreinte et rejoindre les objectifs de la COP de Paris. C'est-à-dire comment on peut dire qu'on réduit 25-30% de notre bilan carbone annuel pour arriver à un format qui soit adapté à la soutenabilité terrestre. Et voilà, ce bilan carbone, il est un point de départ, mais il est aussi une suite dans le sens où la formation permettait d'imaginer des axes de travail pour les années qui viennent et afin d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire que dans le panorama du bilan carbone, il y a des endroits qu'on peut travailler, d'autres pas. Donc l'idée, c'était d'avancer sur ça. Donc ça se concrétise comment ? On a fait une enquête mobilité sur l'échappée des rues. On va aussi la faire sur la saison pour voir comment on peut avancer sur ces questions-là. En disant qu'on ne se déplace pas de la même manière pendant un festival que quand on va voir un spectacle dans un village en novembre ou quand on va au théâtre en avril sous la pluie. Et donc, on a besoin de réfléchir à ça, mais aussi de se dire globalement, à l'échelle du théâtre, quel endroit on peut faire évoluer pour arriver à réduire cette donnée-là, cette mesure-là carbone sur laquelle on doit tous et toutes faire un effort, quel que soit notre âge, notre secteur professionnel, nos enjeux et nos compétences, c'est une nécessité collective qu'il faut qu'on affirme. Et c'est à ce sens-là que porte le bilan carbone et la stratégie climat qu'on développe.
Et d'ailleurs, pendant l'échappée des rues, il y avait des panneaux pour annoncer cette enquête de mobilité. Elle continue. On pourrait peut-être connaître le lien pour y accéder.
Alors, on a fait une enquête publique particulière pour l'échappée des rues. Et là, on est en train de travailler à la nouvelle forme pour la saison culturelle, mais qui sera disponible à partir d'une quinzaine de jours. C'est-à-dire que vous pouvez encore répondre, mais pour quelques jours encore, pour l'enquête sur le festival, mais ça sera une enquête différente pour la saison culturelle.
Et puis, il y a le covoiturage, hein, qui
évidemment
est encouragé également. Et il y a aussi ce billet suspendu, ce geste solidaire pour permettre la culture à tous.
Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun donne à la hauteur de ses moyens et ça permet de financer les places pour des gens qui ont des réalités économiques bien plus difficiles et qui ont plus de mal à venir.
Il y a un engouement quand même très partagé, que ce soit justement des personnes qui ont la possibilité facilement d'accéder à la culture et celles aussi pour des populations qui ont des difficultés financières. Il y a cette prise en compte est-ce qu'il y a peut-être un théâtre off aussi, plus à l'adresse de populations éloignées ?
Alors... Le billet suspendu fonctionne particulièrement sur des déplacements collectifs. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, Solia qui va se déplacer avec une animatrice et 3-4 personnes qui vont venir voir un spectacle qui vont profiter de billets suspendus. Aujourd'hui, on est un peu plus en difficulté pour que des gens viennent de manière individuelle. Par exemple, je n'ai pas d'exemple depuis que je suis là, depuis un an, de jeunes qui seraient, par exemple, accompagnés à la mission locale et qui profitaient du billet suspendu pour aller découvrir tel concert, tel spectacle, etc. Mais en tout cas, c'est un enjeu de moyen terme qu'on porte par rapport à ça. Et dire qu'à côté du billet suspendu, on essaye de multiplier, de créer des formats de liens, de rencontres, d'échanges avec la population dans sa diversité le plus régulièrement possible. Et que oui, la question du social et de l'ouverture des publics est un enjeu extrêmement clair. Je vais prendre un exemple tout simple. On avait deux personnes qui étaient en stage via la mission locale qui ont été bénévoles pendant l'échappée des rues. Et du coup, c'est des gens qui ne pratiquaient pas le théâtre et qui nous ont donné un sérieux coup de main. Et on les salue, Maëlys et Claire, pendant 10 jours pour la bonne réalisation, la bonne mise en œuvre du festival.
Il y a ce fascicule disponible dans tous les espaces, oui. Office de tourisme, de théâtre bien sûr, et d'autres endroits aussi.
En fait, on le trouve à peu... D'abord, on peut le télécharger sur notre site internet. Après, on le diffuse à l'échelle du Odiwa et aussi sur Créé, aussi sur Saillant. On le donne à des endroits qui sont... qu'on juge fréquentés. Et vous le trouvez systématiquement au théâtre et aussi sur les lieux de représentation. Mais en tout cas, on essaie de le diffuser. Après, il est certain qu'il est dur de le trouver. Je prends un exemple tout simple. Le village où j'habite est un village qui n'a pas de commerce à l'année, si ce n'est un restaurant où tout le monde ne va pas tous les jours. Mais en tout cas, on essaie de créer des endroits qui sont un peu centraux et où les gens se déplacent pour le réceptionner.
Pour en apprendre plus, vous pouvez vous rendre sur théâtre-les-r.com.
Et sinon, vous venez jeudi 2 octobre au théâtre à 18h30 pour la présentation de saison et ça sera suivi par la sortie de résidence d'Olivier de Sépibus. Et premier spectacle, donc samedi 4, avec le très beau et très original La nature des équilibres de Sylvain Gourmaud.
Mathieu Dardet, merci beaucoup d'être venu sur Heure du Bois pour nous annoncer donc cette demi-saison du théâtre Les Airs. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Radio Diwa, à bientôt.
Au revoir.
La bêtise se tracasse pour si peu qu'on la ressasse. C'est le temps qui nous raccroche et se dit de rater le coche. On enfila dans l'escalade la gigantesque barrière.